Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, je vais pas inventer quelque chose dont on ne ressent pas.
Ça va être tout de droite. Pas clouc. Premier photo. Ça va pas la lune.
20h-22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, 21h avec Coach Kobis et Walid Acharchour, avec un gros fil rouge, la fin des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, Real Madrid-Liverpool, Napoli, Eintracht Francfort, avant d'accueillir Maxime Thiet, notre correspondant à Nice, et avant ce duel entre Nice et le Sheriff Tiraspol demain en Ligue Europa Conférence, le coup d'envoi des matchs, bien sûr, on commence par le stade Santiago Bernabéu, avec Jeannot Rességuier. Jeannot, à l'instant, poignée de main, Karim Benzema, avec le corps arbitral de la soirée.
Oui, avec donc le protocole, Milner d'un côté, Benzema de l'autre, et Félix Zweier, arbitre allemand, Real Madrid, avec Courtois, Rudiger, Militao, Nacho et Carvajal sur les côtés de la défense, Camavinga, Kroos, Modric au milieu de terrain, Vinicius et Valverde pour accompagner Benzema en attaque. Pour ce qui est de Liverpool, une équipe offensive avec Alisson dans les buts, Alexander Arnold côté droit, Robertson à gauche, Konaté, l'international français, avec Van Dijk pour la charnière, Fabinho avec Milner pour le milieu récupérateur relayeur, Diogo Jota pour accompagner le trio offensif, Salah, Nunez et Gakpo. Voilà, le défi est peut-être impossible, mais en tout cas ils vont tenter le tout pour le tout. Klopp l'a évoqué en conférence de presse. Liverpool battu 5-2 à domicile lors du match aller, et ce sont eux, les Reds de Liverpool, qui vont donner le coup d'envoi. Voilà, c'est parti, avec le coup d'envoi donné par Salah directement derrière pour un premier ballon sur Konaté, qui va essayer d'alerter à gauche rapidement Nunez. Le ballon ira directement en touche.
Ah, tout à l'heure, Jeannot, c'est parti également entre le Napoli et l'Eintracht Francfort, Rien Tiersin.
Ouais, depuis 30 secondes, 0-0, les Napolitains qui peuvent se qualifier pour la première fois de leur histoire en quart de finale de Ligue des Champions, et ce serait mérité avec cette magnifique équipe, hein. Osimhen, Varane, il y a peut-être la première occasion là pour les Napolitains. Justement, le ballon est repoussé par la défense allemande. Il manque Randal Kolo Muani, expulsé lors du match aller. Pas Jesper Lindstrom non plus du côté de Francfort, qui doit marquer donc au moins deux buts pour, attention, la première frappe de Zielinski qui est repoussée par Kevin Trapp, la frappe de Kvaratskhelia contré par Aurelio Buta, le latéral droit de Francfort. Ce sera un premier corner ici au stade Diego Armando Maradona. Une minute de jeu, des Napolitains qui mettent déjà les Allemands en difficulté, 0-0, donc 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. La victoire des Italiens, c'était à la Deutsche Bank Arena en Allemagne.
Le corner quand même conçu avec toi, mon cher Aurélien.
Ouais, de la gauche vers la droite, il y a Victor Osimhen évidemment dans la surface de réparation. On attend le coup de pied soit de Zielinski, le Polonais, ou de Mario Rui, le Portugais. Ce sera le pied gauche du Portugais, dégagé de la tête par la défense de l'Eintracht. Deuxième chance peut-être avec sur le côté droit Matteo Politano, qui n'était pas là lors du match aller. Le relais avec Franck Anguissa, okay. Le ballon est perdu. Deuxième minute de jouer, donc 0-0, mais énorme avantage pour les Napolitains qui l'avaient emporté par deux buts au match aller.
Demain soir 21h, l'OGC Nice, dernière chance française en Europe, 8e retour de Ligue Europa Conférence contre le Sheriff Tiraspol. Nice l'avait emporté la semaine dernière 1-0 sur la pelouse du Shérif. Le gym a-t-il les moyens de viser très haut cette saison en Ligue Europa Conférence? Vous nous appelez au 32-16, supporters niçois. On va en parler, en débattre avec Coach Courbis et également Walid Acharchour. D'abord, j'accueille Maxime Thiliette, notre correspondant sur la Côte d'Azur. Salut Maxime.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Maxime.
Quelles sont les dernières infos? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que le groupe sera quasiment au complet demain?
Alors, pas forcément totalement au complet, parce qu'il y a toujours quelques petites absences, notamment celle de Youssef Attal qui a re-shooté au niveau des ischios. En revanche, il y a une bonne nouvelle, c'est le retour de Nicolas Pépé. Il va être précieux dans ce sprint final que les Niçois abordent, avec notamment ce match, eh bien, demain soir. Nicolas Pépé qui a manqué les deux derniers mois, hein, tout de même de compétition. Il a joué qu'un petit match sous les ordres de Didier Digard, qui a pris les commandes de cette équipe. Donc, c'est un retour de taille. Sinon, eh bien, on aura un effectif quasi au complet pour Didier Digard, mis à part l'absence d'Antoine Mendy, le jeune latéral droit qui est toujours diminué au niveau de la cheville.
Est-ce que t'as une compo probable
aussi, non?
Oui, Sofiane Diop, bien sûr, ouais. Évidemment. Qui est
apparemment, c'est un peu plus, c'est peut-être un peu plus grave que prévu en plus.
Bon, alors, ouais, ce n'est pas Didier Digard qui est venu en conférence de presse aujourd'hui, mais son adjoint Julien Sablé, hein, Maxime, hein, parce que le numéro 1 ne pouvait pas.
Oui, c'est ça. C'est en Coupe d'Europe, en fait, l'UEFA a certaines règles. Il faut que un nouvel entraîneur diplômé soit présent 2 mois après le départ de son prédécesseur. Et là, les 2 mois sont passés, ce qui fait que Didier Digard a pu, bien, assumer toutes ses missions habituelles, notamment devant les médias. La semaine passée, il a pu le faire en Moldavie. En revanche, cette semaine, c'est Julien Sablé qui lui a le diplôme, le BEPF, qui a pu donc se présenter face à nous en conférence de presse.
On va l'écouter justement. Julien Sablé, la question lui a été posée. Est-ce que d'être le dernier club français encore en lice en Europe ajoute de la pression? Écoutons sa réponse.
Non, ça rajoute pas de pression. On est concentré, encore une fois, la vérité ne ressortira que du terrain, et on est concentré sur nous, et on sait que ça bénéficiera au football français dans un deuxième temps. Mais bon, les paroles, ça s'envole. La place aux actes, et de sortir une grande performance dans, j'espère, un stade plein pour pousser le gym.
Est-ce que le gym a-t-il les moyens de viser très haut en Ligue Europa Conférence, messieurs, coach et Walid? On en débat ensemble, et vous aussi au 32-16, supporters niçois. Je rappelle quand même les derniers gros, entre guillemets, engagés encore en huitième de finale. Villarreal, sixième de Liga, West Ham, 17e de Première Ligue. Ah, pour moi, un gros, quoi.
Villarreal, sixième de Liga, tu peux pas t'arrêter à ça, Nico.
Pourquoi?
Demi-finaliste de Ligue des Champions l'an dernier.
Oui, ok, tu vas monter. Je parle de la fin du moment.
Non, ouais, non, c'est ça. Ils ont gagné la Ligue Europa l'année d'avant contre Manchester United. On parle quand même d'une équipe qui est en Europe. Et...
Chevronnier expérimenté qui connaissait les hauteurs d'une Coupe européenne. Bon, là-dessus aussi est présente, mais attention, elle a perdu 2-1 contre Alkmaar au match aller. La Fiorentina, 11e de Serie A. Votre avis là-dessus, messieurs, est-ce que Nice a. Parce que je sais qu'à West Nice, on a ambition, on va parler avec toi, Maxime, dans un instant.
West Ham aussi qui est encore.
Je l'ai dit, ouais, je l'ai dit. Ouais. Tu regardais pas trop le match et que tu m'écoutais, tu m'aurais su.
D'accord, Nico.
Alors, moi, non, qu'est-ce que Nice doit viser, Walid?
Moi, je vais être prudent parce qu'encore une fois, avec les clubs français sur les dernières semaines, il faut l'être, et parce que l'équilibre de Nice est encore fragile. Bien évidemment, qu'ils font du très très bon boulot, qu'ils sont sur une très très bonne dynamique, que Didier Digard a montré que dans le management et puis même dans sa capacité à impulser quelque chose pendant les matchs avec une équipe qui répondait totalement à ce que demandait l'adversaire. On l'a vu contre Monaco, contre Lens, contre Lille, contre l'Olympique de Marseille notamment. Maintenant, on va attendre ce qui va se passer demain soir, et puis après il y a quand même des équipes qui sont pour moi un peu plus outillées en termes d'expérience et même en termes de qualité de joueurs. Tu viens de les citer, même si attention, Nice doit avoir de l'ambition. Ils ont des joueurs très intéressants, de l'expérience mélangée à de la jeunesse. Mais moi, je vais rester quand même prudent. Je peux pas venir sur le plateau aujourd'hui et te dire, Nico, Nice doit prétendre à la gagne, parce que pour moi, ça reste encore fragile. Ça reste une dynamique qui est fragile, et pour moi, Nice doit y aller étape par étape. Après, ça veut pas dire, bien évidemment, qu'elle ne doit pas avoir d'ambition.
J'accueille Patrick au 32-16, ouais. Supporter de GC Nice. Salut Patrick.
Bonsoir l'équipe.
Salut Patrick.
Tu as écouté les propos pleins de sagesse de Walid.
Bonsoir. Ben, écoutez, le match de demain, je vois qu'on va passer quand même tranquillement, parce qu'au vu du match aller sur une pelouse qui était plus un terrain de sable qu'autre chose, sur un coup du sort, on a quand même pu mettre un but, donc demain, ça devrait passer. En revanche, pour les tours suivants, il y a quand même 4-5 gros morceaux. Même si nous, on est quand même, on n'est pas un faire-valoir, on va faire valoir nos droits. Cependant, j'ai une crainte que si on tombe sur des équipes avec un bloc bas, on n'est pas encore en capacité de faire de jeu pour percer, pour aller de l'avant. Par contre, comme on a fait à Lens, comme on a fait à Marseille, comme on a fait à Monaco, si nous on joue en bloc bas, ça peut être différent.
Oui, après,
parce que ce que
après,
vous en pensez.
Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'un bloc bas, Nice. C'est un bloc bas, bien évidemment,
non.
mais à la sortie à la ressortie du ballon, c'est quand même très intéressant. Il y a des joueurs au milieu de terrain qui techniquement sont capables d'annihiler un pressing. Je pense à Boudaoui qui est en train de prendre une grande dimension.
Oui.
Je pense à Geoffrey Thuram, notamment.
Oui.
Donc ouais. ce qui est intéressant.
Mais la construction. Moi, je parle de la construction.
Oui, là, t'as raison d'insister là-dessus, c'est qu'on l'a vu contre Auxerre, on l'a vu contre. Il y a un autre match aussi contre Reims aussi, ou même si ça fait 3-0. Je trouve que le score est un peu boursouflé.
Oui.
C'est vrai que ça va être la prochaine étape de Didier Digard, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose quand les équipes vont attendre Nice, parce que il y avait cette surprise du Nice d'Odigard, on savait pas très très bien comment les aborder. Là maintenant, je pense que les adversaires auront un peu plus de matière. Maintenant, attention, parce que les grosses équipes dont on cite tout à l'heure, peuvent être piégés par Nice avec un bloc bas. Donc en fait, c'est finalement, on sait pas trop où se situer avec Nice. C'est pour ça que je marche un peu sur des œufs sur la question de Nico, ouais. Moi.
Ça c'est aussi une qualité de notre coach, hein. Il brouille les plans un petit peu à chaque rencontre, hein. Bien que il nous manque quelqu'un au milieu pour diriger le jeu, pour l'orienter. Il nous manque un vieux numéro 10 comme ça se faisait à l'époque, hein. Je pense que ça nous manque.
Coach, comment tu juges cette OGC Nice-là sur la scène européenne? Je sais qu'ils sont très ambitieux à Nice. On a reçu Dante il y a 3 semaines dans Génération After, qui ne s'empêche aucun rêve cette saison.
Je vois pas les choses comme vous. Hein. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai raison. Tant mieux, je vous donne quand même mon avis. Ce qui se passe à Nice avec Digard, c'est tout simplement extraordinaire. Je suis le premier à le saluer. N'en demandons pas trop ni à Nice ni à Digard. Si maintenant Nice pense continuer sa remontée au championnat en jouant le jeudi, en voyageant pour aller en Moldavie, et qu'à la fin de la saison il manque un point ou deux pour pas être européen, ben ça sera vraiment dommage. Enfin pour moi. Mais maintenant, oui. En ce qui concerne cette coupe, qu'elle soit considérée comme une Coupe d'Europe, oui, allez, si vous voulez.
C'est tout. Oui, c'est vrai que t'as du mal avec la Coupe.
Ben, c'est la Coupe des villes de foire de l'ancien temps.
Voilà, donc c'est...
Mais respect quand même,
non,
les gars.
Non, d'ailleurs, je suis quand même...
Non, mais ça s'appelait comme ça, hein, ville de foire.
Oui,
hein.
Je sais bien, mais bon...
Pour un club comme Nice, donc, c'est quand même important, ce...
Coach, rappelle-toi Mourinho, quand il gagne la Ligue Europa Conférence, c'est la fête à Rome, c'est la folie, mais à Nice...
C'est comme ça que tu te crées une histoire européenne, quand même.
Mais c'est certainement vous qui avez raison.
Surtout pour Nice, Roland.
Toi, tu la prendrais pas, toi. Tu serais coach d'une équipe de Ligue 1 aujourd'hui, tu la disputes, tu la mettrais de côté, quoi.
Mais non, je la mettrais pas de côté, mais quand, par exemple, j'aurais le choix entre ma meilleure équipe le jeudi ou le dimanche avec le match de championnat, et que je regarde, par exemple, que tel ou tel club comme Rennes et tout, ils sont pas si loin que ça, et que là, je viens de me faire accrocher 2 fois. Oui, je reste invaincu avec 2 matchs nuls. Je viens de prendre simplement 2 points sur 6. Eh ben, peut-être que c'est ce calendrier qui m'a fait perdre 2 points. Alors, je dis bien peut-être, en ce qui concerne après les risques de blessure, je te dis pas avec la fatigue. Si Nice arrive à aller au bout dans cette coupe conférence et être dans les 5 premiers comme je pense que c'est possible, oui. Eh ben je serai le premier à applaudir. Mais si des fois il manque 2-3 points, eh ben on ira les chercher peut-être au match du jeudi. Si par contre tu vas jusqu'au bout et que tu la gagnes, puisque tu me fais la comparaison avec ceux qui l'ont gagné, eh ben à ce moment-là, c'est moi qui aurais été trop prudent. Eh ben désolé d'être trop prudent.
Moi je trouve Roland Courbis très prudent, hein, Nico. Mais trop prudent. Parce que non, en fait, l'histoire que nous raconte l'OGC Nice cette saison, c'est que ils ont été très très vite décrochés pour l'Europe. Notamment avec ce début de saison sous Favre.
Et les 10 premiers matchs, ça a été catastrophique.
Hein. Notamment, donc aujourd'hui, il y a quand même des équipes, notamment Rennes et Lille, hein, même Reims, qui sont en capacité d'aller jouer cette 5e place. Donc, pour moi, si j'étais à la place de Nice, surtout Nice, parce que Nice, alors moi j'ai 29 ans, donc je parle sous le contrôle de toi, Nico et Roland, et même de notre auditeur, c'est que Nice a très très peu d'histoire européenne.
Bien sûr.
Moi j'ai
vu un magnifique Nice Kilmarnock. Je passe en dessous d'un Patrick.
97
oui, 98.
J'étais au stade.
Ouais. Non mais moi
97. Me vieillis pas, hein, pas 77.
Moi, j'ai très peu d'épopées niçoises qui me reviennent. Donc sûrement ça n'a pas existé. Donc cette équipe là et ce club là,
bien sûr,
a une opportunité. Ils sont donc ils peuvent être en quart de finale de Conference League. Quart de finale.
Youpi.
Ça ils vont y aller.
Coach, je crois que tu mesures pas. Quart. Les supporters niçois que je peux représenter.
Roland.
Mais oui, alors
Roland, s'il te plaît, Roland.
Peut-être que c'est fabriqué artificiellement, certes, mais en tout cas, l'émotion, elle est là aujourd'hui. Et je pense que Patrick à Nice, quand on parle avec tes potes, vous imaginez un parcours peut-être. Toi, t'es pas hyper confiant pour aller jusqu'au bout, mon cher Patrick.
Non.
Mais t'es en quart de finale.
Comment tu vivrais ça si Nice jouait une finale de Ligue Europa Conférence?
Tu te rends compte, Wally, à la fin de la saison, quand tu feras le bilan avec tes potes au bar en train de boire l'après. On a été en quart de finale.
Non, on parle de victoire finale.
On dit qu'en quart de finale, tu dois pas être prudent et tu dois y aller jusqu'au bout. Entre un quart de finale de Conference League et tes sixième, septième, parce que ton raisonnement, ton fameux raisonnement, Roland, que je respecte totalement, mais tu peux pas jouer toute la fin de saison à 15, 16 joueurs en essayant de faire une équipe de 8 joueurs à chaque fois et de changer un joueur ou deux par ligne pour essayer d'avoir tout le temps une équipe compétitive. C'est pas possible pour Nice.
Mais ils ont pas les joueurs. Mais c'est possible. C'est d'ailleurs pour ça que mes mains, ils sont prêtes pour applaudir. Il n'y a plus qu'à s'en servir.
Pourquoi on part tout de suite sur une histoire de défaitisme un petit peu, du truc un peu.
Il faut y aller là.
On va perdre 2 ou 3 points. Et si Nice il termine 6e ou 7e cette saison en ayant fait une demi-finale de Conference League, on n'en voudra pas à Digard parce que malheureusement Favre et Nice ont fait un début de saison catastrophique et on les imaginait même pas il y a encore 3 semaines.
Je vais poser la question à Patrick et à Maxime aussi dans un instant. Arrête Roland. Finir 10e et gagner la Ligue Europa Conférence ou finir 5e et échouer en quart de finale Ligue Europa Conférence, tu fais quoi toi?
Moi?
Ouais.
5e.
D'accord. Et quart de finale Ligue Europa Conférence.
On va jouer un beau quart. On va faire un beau match.
J'ai mal à mon romantisme.
C'est quoi ton dilemme là?
Entre terminer 10e de Ligue 1 et gagner la Ligue Europa Conférence ou terminer 5e de Ligue 1 et échouer en quart de finale Ligue Europa Conférence.
Mais comment on peut choisir la 5e place?
Remporter la coupe.
Remporter la coupe d'Europe, pour Jean-Patrick. Tu joues une coupe d'Europe l'année prochaine.
Mais la même chose.
Tu vas la jouer, alors on ira gagner la Ligue Europa Conférence.
Mais si tu gagnes la Conference League, t'étais qualifié aussi.
Bon, Patrick, t'étais pas armé pour ce débat, j'ai l'impression.
Mais tu penses que la Roma, ils ont pas joué l'Europa League cette année, la Roma? Ils sont pas en Europa League, ils ont gagné la Conference League l'année dernière. T'as coup double, t'as le premier titre européen de ton histoire. Mais la 10e place en Ligue 1.
La 3e Coupe d'Europe française de l'histoire.
Mais je pense que c'est pas
une Coupe d'Europe. Mais bon, voilà.
Coach, t'es d'accord avec ça, coach?
On est en train de bouger un peu. Maxime, comment on vit ça à Nice, toi, cette aventure européenne?
On a conscience que la Nice peut quand même atteindre pour la 3e fois de son histoire seulement un quart de finale de Coupe d'Europe. Et les dernières, c'était en 57 et en 60 face au Real Madrid. Donc c'était une autre époque. On est conscient qu'il y a la possibilité d'écrire l'histoire. Alors ce n'est certes entre guillemets que la Conference League, mais Nice va pas cracher dessus, loin de là. Faut être honnête. Après, je me souviens d'une déclaration de Didier Digard avant le match de Nantes ce week-end. Ils ont rentré à peine de Moldavie et il disait que pour Nice, malgré tout, le chemin le plus court vers l'Europe, ça restait le championnat. Parce que les équipes devant n'étaient vraiment pas loin et il y avait la possibilité d'aller les chercher. Après, Didier Digard, honnêtement, il dit ça, mais il a très envie de vivre une belle aventure européenne parce que c'est aussi en vivant ce genre d'émotion, ce genre d'épopée qu'on peut aussi ramener du monde à l'Alliance. On sait que c'est un défi qui n'a pas toujours été évident de créer une dynamique autour de l'OGC Nice. Et c'est vrai qu'une Coupe d'Europe, on l'a vu à Marseille la saison passée. Alors c'est Marseille certes, mais il y a un réel engouement autour des rencontres de Conference League. Et à Nice, on peut imaginer que si ça passe ce tour-là, derrière il y aura encore de belles affiches et ça peut créer vraiment quelque chose.
Pose la question, si sincèrement Nice n'est pas européen à la fin de saison, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose après l'histoire qu'on nous a racontée sur les 6 premiers mois?
Ah non, pas du tout. Mais s'ils ne sont pas européens, qu'il leur manque 2 points, je t'expliquerai moi qu'ils ont été perdus ces 2 points.
Oui, mais moi je préfère qu'un club français là joue au fond.
Les 2 points, ils ont été perdus ici à la maison contre Auxerre.
Lors des 11 premières journées, exactement.
Et à la dernière minute contre à Nantes.
Et puis surtout,
il y a 4 points qui nous filent sous le nez.
Et surtout, je préfère un club français, cette mentalité du club français qui va jusqu'au bout dans ses épopées européennes, que de jouer à l'épicier comme ce que dit Roland là depuis tout à l'heure.
Appelle-toi Marseille en Ligue Europa.
L'épicier, il te signale qu'il a eu le plaisir d'être sur un banc et de pas être champion parce que il m'a manqué 1 point. Et ce point-là, il m'a manqué parce qu'on a joué les matchs tous les jeudis pendant que Bordeaux, ils nous regardaient jouer à la télé.
Toi, l'épicier, c'est ce qu'il a dans la réserve. Toi, tu sais pas ce qu'il y a dans la réserve. Ouais, c'est le raisonnement pragmatique de coach. Merci, Patrice, d'avoir fait le 32-16.
Merci à vous, l'équipe.
Nous rappeler demain pour le débrief de ce match, Nice, Sheriff Tiraspol. Merci également à toi, Maxime. Bon match.
Il faut battre ce shérif.
Ça
nous fera des souvenirs. On était au Far West, il y avait même un shérif. On l'a battu. Et puis les Indiens, ils peuvent arriver.
Il est bon ce coach. Maxime, merci. Donc tu rencontreras le shérif demain. Écoute,
hein. Exactement. À demain.
Bon bonne commentaire soirée, à toi et bonne soirée d'abord.
Qui tu rencontres, le shérif?
Roland, tu peux mettre un euro de bonbon, s'il te plaît, Roland.
Oh là là là.
Allez, les matchs en direct Ligue des Champions, les huitièmes de finale retour. Le Stade Santiago Bernabéu, Real Madrid, Liverpool. Jeannot Rességuier.
17 minutes de jeu, 0-0, 5-2 pour le Real, toujours sur l'ensemble des deux matchs. Deux pertes de balles en début de match. Sixième minute pour le Real, Benzema, Rudiger qui n'est pas bien positionné. Et ça a failli profiter à Salah, puis pour Nunez et l'arrêt de Courtois du bout des crampons. Deux minutes plus tard, même système, perte de balle de la part de Liverpool, alors que là il y a un ballon dans la surface de réparation qui vient de la droite avec Salah et imprécision derrière de la part de Diogo Jota. À la huitième minute, perte de balle de Liverpool, Benzema, Vinicius, décalage avec Kroos et la passe en retrait n'est pas bonne. Milner peut sauver la baraque et la grosse occasion, elle est pour le Real Madrid à la 14e minute. Rudiger sur un ballon venu de la droite qui remise de la tête au deuxième poteau. Vinicius est à deux doigts d'ouvrir le score alors que Alisson Becker se demande encore comment il a pu détourner cette balle sur son propre poteau.
L'autre match également entre le Napoli et Francfort, Aurélien Tiersin.
0-0 après 18 minutes de jouer et c'est Kvaratskhelia qui a la clé. Clairement, on l'attendait évidemment, le Géorgien, dès qu'il accélère, il fait très très mal à cette équipe de Francfort. Pied gros, pied droit, le corner quand même avec le point de Kevin Trapp, c'est repoussé à l'entrée de la surface. La reprise de Mario Rui, elle est un peu écrasée, c'est dégagé par la défense de Francfort qui a quand même eu 10 bonnes premières minutes avec notamment à la 6e Mario Götze qui rate une reprise qui paraissait facile à 2-3 mètres des cages d'Alex Meret sur un beau service de Raphaël Boré. Mais là, dès que Gvisha Kvaratskhelia accélère, il fait des 1-2, des doubles 1-2, des triples 1-2. Alors évidemment, il a des coéquipiers autour de lui, Victor Osimhen qui est très solide, Mario Rui qui fait un bon match aussi dans le couloir gauche, mais Kvaratskhelia, il a déjà frappé deux fois au but et on sent qu'il a toute la latitude pour faire très mal à cette équipe de Francfort qui a toujours deux buts de retard donc dans cette partie. 20e minute, 0-0 au stade Diego Armando Maradona.
Dans un instant, l'équipe de France, la liste, la première liste post-Coupe du Monde de Deschamps, elle a attendu. Il y aura peut-être des surprises, on en parle avec Coach Courbis, Wade Cherchou, et on profitera bien sûr de la présence de Jeannot Rességuier, notre homme qui suit l'équipe de France depuis maintenant. Je n'ose même pas le dire. Restez avec nous. À l'instant, Jeannot, une grosse phrase de Kamavinga d'ailleurs.
Oui, à l'entrée de la surface de réparation, Kamavinga qui sera certainement sur la liste de Didier Deschamps qui tente sa chance. La balle est un peu flottante et elle finit sur la transversale du but d'Alisson Becker. Ça va être compliqué pour Liverpool s'ils ne mettent pas au moins un but sur la première période parce que là, pour l'instant, ils ne se montrent pas très très dangereux. Au contraire, à l'inverse, c'est le Real qui a les plus grosses situations.
Tout à l'heure, Jeannot, on parle des Bleus dans un instant, la liste de Deschamps qui va tomber demain à la mi-journée. Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jeannot.
Avec Coach Courbis, Walid Acharchour, c'est Génération After sur RMC. Il est 21h22. Les matchs, les 8e de finale, retour de Ligue des Champions. Real Liverpool, Jeannot Rességuier.
Toujours 0-0, toujours 3 buts de retard pour Liverpool. Corner à suivre pour le Real avec Kroos pour le frapper de la droite vers la gauche et ballon dégagé de la tête par Konaté. Ça rebondit encore dans la surface de réparation avec Fabinho qui devance Militao et toujours cette équipe du Real qui se porte à l'assaut du but d'Alisson Becker. Ça revient dans les pieds de Modric. Oh, elle part bien cette balle. Elle flirte avec la transversale. Elle n'est pas cadrée mais à quelque chose de près. C'était pas très loin de la lucarne.
Ils sont en train de prendre une grosse ascendance dans le jeu, le Real.
Pardon ?
Ils sont en train de prendre une grosse ascendance dans le jeu.
Oui, après, c'est un peu normal. Il y a le 5-2 du match aller, puis ensuite, tu sors à la maison. Donc là, je m'attendais à un autre début de match de Liverpool, parce qu'on se rappelle du 1-0, puis 2-0, après 4 et 14 minutes de jeu pour les Reds au match aller, avant de sombrer derrière. Là, pour l'instant, très honnêtement, je veux bien que Jürgen Klopp soit tranquille dans sa tête et dans son plan de jeu, mais il va falloir être un petit peu plus dangereux.
L'autre match, l'autre huitième retour entre le Napoli et l'Eintracht Francfort, Aurélien Tiersin.
0-0, 22 minutes et 40 secondes de jouer. Un bon coup franc pour les Napolitains qui ont toujours deux buts d'avance sur l'ensemble des deux matchs. Coup franc sur le côté droit du terrain, une bonne quarantaine de mètres des cages de Kevin Trapp. Il y a le pied gauche de Matteo Politano, le pied droit du Polonais Piotr Zielinski. Ça sera pour le Polonais pour la mettre dans la boîte, évidemment, la grande taille de Victor Osimhen ou celle d'Anguissa au deuxième poteau. La tête qui va passer devant la cage de Kevin Trapp et dégager par Daichi Kamada. Ça va être compliqué quand même, on le sent, pour cette équipe de Francfort. On le savait, il n'y a pas Kolo Muani, il n'y a pas Lindstrom. C'est la plus mauvaise attaque de Ligue des Champions parmi les équipes encore qualifiées. Mission presque impossible pour les Allemands. 0-0 après 24 minutes.
Demain, donc, la liste de Didier Deschamps pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Hein, deux matchs, les Pays-Bas le 24 mars, l'Irlande le 27. Une majorité de joueurs finalistes au Qatar devraient en être. Ils étaient 24 au départ pour le Mondial 2022. Ils devraient être 23 pour lancer la campagne. Quels doivent être les nouveaux tauliers de l'équipe de France? Vous nous appelez au 32-16 pour en parler, en débattre avec coach Courbis et Walid Acharchour. Et on profite bien sûr de la présence de monsieur équipe de France, Jeannot Rességuier, qui commente en même temps Real Madrid, Liverpool. Jeannot, tu me confirmes, peu de surprises attendues demain?
Oui, alors déjà, il y aura peut-être une surprise au niveau du gardien de but, puisque les deux retraités, Lloris et Mandanda, il faut les compenser. Maignan, qui est revenu en forme et qui joue surtout avec l'AC Milan, sera donc numéro 1, c'est ce qui lui avait été en tout cas promis. Ensuite, Areola, avec le fait qu'il soit champion du monde, eh bien, donne un avantage dans l'esprit de Didier Deschamps. Je sais que ça plaît pas trop à coach Courbis, mais après, après il y a une vraie interrogation autour de Lafont et de Samba. Les deux ont été vus par Franck Raviot. Franck Raviot apprécie Samba. Après, reste à savoir, et c'est la question que se pose le staff, il y a vraiment une réflexion là-dessus, reste à savoir si Samba acceptera de se retrouver en numéro 2 ou voire même en numéro 3 si Areola a été confirmé juste derrière Mike Maignan.
Pourquoi il n'accepterait pas?
Pour ce qui est d'Areola,
ce sont les échos qu'on a sur le fait qu'il est très ambitieux, et par rapport à Didier Deschamps, la hiérarchie doit être claire, nette et précise.
En ce qui concerne Areola, moi, je pense que Brice Samba, il est meilleur, mais j'ai rien contre Areola.
Ah, mais ça, c'est ton avis, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense
donc
que beaucoup ont cet avis-là, mais sauf qu'après, il faut être dans la logique de Didier Deschamps. Après, derrière, il y a un nom qui revient beaucoup, c'est celui de Wesley Fofana, avant qu'il se blesse, avant la Coupe du Monde. Ouais, il était question qu'il intègre l'équipe de France. Donc, ça, c'est un nom qui pourrait servir de surprise. Et ensuite, au milieu de terrain, pour l'instant, il y a deux noms de jeunes qui reviennent assez souvent. C'est Manu Koné de Mönchengladbach, l'ancien Toulousain, et Kefren Thuram. Sauf que voilà, il y a le championnat d'Europe des espoirs. Il y a eu discussion entre Ripoll et Didier Deschamps, et que ce serait assez surprenant, eh bien, que des joueurs clés des espoirs se retrouvent avec les A sur la liste des A demain. Mais bon, sait-on jamais à ce niveau-là. Et puis pour finir, un retour normalement, en tout cas qui est possible, celui de Moussa Diaby avec Leverkusen, en l'absence de Dembélé, et le non-retour de Nkunku, puisque vous le savez, il était revenu de blessure et oui, il a rechuté entre guillemets, ou plutôt blessure de compensation.
Coach, quelle surprise tu aimerais voir demain dans la liste?
Ben, j'aimerais voir
quel rêve tu aurais,
un tireur de coup franc. J'aimerais voir milieu capable de faire des ouvertures sur les appels d'Mbappé. Et malheureusement, dans cette génération, j'en vois un qui est pas tout jeune, qui a une trentaine d'années, mais bon, le présent, ça va nier. Si par exemple, là aussi, on me dit que je suis fou de penser à Savanier, mais pourquoi pas? Le football, il y a un petit peu de folie aussi. Mais qu'on me dise aussi en même temps que je suis fou, qui c'est qu'il y a de mieux pour faire les passes à Mbappé? Oui, Griezmann, Nkunku, il est pas là. Eh ben, je cherche dans les Français possibles. Et ce Savanier, tireur de coup franc, on va passer combien d'années sans plus marquer un coup franc dans notre équipe de France? Un jour, ça va bien s'arrêter. Ben, lui, il en est capable. J'ai encore vu dernièrement son corner frapper.
Un coup franc direct en match officiel, tu veux dire, hein, bien sûr. Jérôme Rotten, 2008, contre les îles Féroé. Mais entre-temps, on en a quand même marqué quelques-uns. Avec Griezmann, avec Pogba, il y en a eu. C'était des matchs amicaux.
Oui, non, mais je parle pas d'un coup franc qu'on met sur la tête d'un partenaire. Hein.
Je parle de coup franc direct. Je parle de coup franc direct.
Bon, le problème, je connais l'histoire, c'est que Savanier, bon, il a 31 ans, il va avoir 32 ans cette année, que Deschamps, il veut construire encore pour l'Euro et la Coupe du Monde 2026.
Oui, mais attends.
Moi, j'aime bien ton idée, hein, évidemment. On a souvent parlé d'ailleurs.
Ça, ok. Mais en ce qui concerne Savanier, c'est pas non plus interdit d'être sélectionné à 31 ans pour avoir comme objectif l'Euro. Après, pour la Coupe du Monde d'après, si d'ici là, il y a un jeune qui arrive, on verra. Mais bon, moi, c'est mon avis. Après, ça reste le mien, c'est tout.
Walid, un avis là-dessus?
Non, moi j'aimerais bien déjà voir Brice Samba cette année. On en parlera après. Mais sinon, dans cette liste-là, peut-être voir un Jean-Clair Todibo ou un Wesley Fofana en défense centrale. J'aimerais bien voir.
Après, on parle de doublure, hein, Walid. Hein.
Oui.
La charnière, ça sera Konaté.
Non, bien évidemment.
Avec Upamecano, ouais, c'est certainement Nico, en tout cas, celle que Deschamps veut installer.
Oui, bien sûr. Ça, il y aura pas de souci sur Upamecano. Konaté, surtout en plus avec le Upamecano qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain.
C'est clair.
C'est le leader aujourd'hui post Varane. Il y a aucun problème là-dessus. Maintenant, c'est plus dans la liste. Hein. C'était la question de Nico. Essayer de voir un peu des têtes un peu fraîches. Et moi, je trouve que voir récompenser un Todibo, récompenser un mec au milieu de terrain comme Manu Koné ou comme Kefren Thuram, qui sont des milieux de terrain qui sont créatifs, qui ont une palette je trouve assez moderne et en phase avec ce que le foot aujourd'hui peut proposer.
Thuram, moi aussi, me plaît bien.
Oui, Kefren Thuram avec Nice, c'est pas forcément des joueurs qui jouent dans des très très gros clubs, mais je pense que dans l'émergence, surtout dans un secteur où on a perdu Kanté, on a perdu Pogba, on a souvent dit notamment avant la Coupe du Monde que c'était assez léger, je pense que dans ce secteur-là, on peut apporter des styles différents et c'est deux joueurs qui pour moi peuvent ramener une petite plus-value dans ce secteur-là. En tout cas, les essayer, j'aimerais bien.
J'accueille Thomas au 32-16, supporter de l'AS Saint-Étienne. C'est important de le préciser avant de l'accueillir, Thomas. Salut.
Salut les gars.
Salut Thomas, bienvenue dans Génération After sur RMC, Thomas. Alors,
salut Thomas.
Quels seraient tes souhaits pour la liste demain, toi?
Moi, je vais faire un petit peu de nostalgie et faire un peu rêver tous les supporters des Verts. Moi, ça serait sur le long terme installer une charnière Saliba ou Wesley Fofana.
Ah,
ouais. Je pense que
une saison où
par un peu de loin, là, quand même.
Une saison 2019-2020, on finit quatrième meilleure défense avec 41 buts pris devant à Paris, Lille et Nice. On va en coupe finale de Coupe de France avec eux. On espère le retour de Saliba pour jouer contre le PSG, ce qui vient pas, et du coup, c'est la fameuse action avec Perrin qui va découper Mbappé. Peut-être qu'avec les deux, ça aurait peut-être été un peu différent, quoique. Mais surtout, c'est des gars qui se connaissent depuis, le centre de formation. Et, pour moi, l'importance des automatismes et de bien se connaître dans une charnière centrale, si tu joues à quatre derrière, donc avec deux gros centraux, c'est primordial et, franchement, quand tu les as vus éclore avec tes supporters stéphanois, les gamins, quand ils sont arrivés, ils avaient 18-19 ans. C'était assez impressionnant, quoi.
Attendons que Fofana soit dans la liste, déjà. Allons-y étape par étape, quand même, sur le rêve. Fofana, c'est intéressant d'insister là-dessus, parce que Fofana, moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Hein. Après Saint-Etienne, il avait fait une saison incroyable à Leicester avant de se faire une grave blessure, notamment contre Villarreal en prépa. Mais il a du mal un petit peu à s'imposer, à enchaîner avec Chelsea. Donc, ce serait quand même une mini surprise. Je sais pas ce que t'en penses, Jeannot, de le voir s'il est appelé par Deschamps.
De toute façon, il y a match avec Disasi, Todibo et Fofana.
Mais voilà. sur la récurrence et la régularité en termes de match, c'est pas
Fofana. Après, moi, j'ai pris l'habitude, Walid, d'être dans le suivi des intentions de Deschamps. Et quand il a, à un moment donné, pensé à un joueur, il y revient. Donc, il l'a pas fait, et pour cause, puisqu'il y a eu blessure. Et il est possible que ce soit cette fois-ci la bonne pour lui. Quoi. Voilà.
Et Jeannot, en ce qui concerne le cas Pavard, qui est quand même... un cas avec un grand point d'interrogation, on va vers
mis où, au banc à la Coupe du Monde après le match contre l'Australie, au banc des remplaçants, bien évidemment. Écoute, de ce qu'on a comme retour avec Fabrice Hawkins, c'est qu'il devrait être présent avec Koundé. On n'a pas de véritable latéral droit qui émerge. Il y avait Mukiele qui avait gros à jouer ces derniers temps, mais qui s'est reblessé avec le Paris Saint-Germain. Kalulu et Simakan pour penser aux espoirs, parce qu'il y a beaucoup de liens entre Ripoll et Deschamps. Il y a le championnat d'Europe du mois de juin prochain et il y a surtout deux joueurs, un qui ne joue plus titulaire, Simakan, et un autre qui est repassé dans l'axe, Kalulu.
Donc il a joué hier, Simakan, non?
Il est rentré.
Il est rentré.
Il est plus vraiment titulaire. En revanche, Kalulu, lui, est toujours titulaire, mais a glissé en tant que défenseur central.
Et Klos, c'est fini, Klos?
Klos, dans une défense à 4, ça me paraît un peu compliqué.
Ça veut dire qu'on repart sur une défense à 4, mon cher Jeannot.
C'est ce qu'il a expliqué clairement au moment de la Coupe du Monde et post-Coupe du Monde dans son bilan. Quoi.
Bon. Ok. Bon, très bien. Thomas, tu veux ajouter quelque chose?
Que nous, vas-y, coach. Notre idée, c'est.
Attends, Thomas, vas-y, coach.
Notre idée, c'est ou à 4 ou à 3. Mais envisager les deux, y compris dans le même match.
Mais si, il les envisage, mais ça ne sera pas sa priorité, comme ce fut à un moment donné sa priorité de faire une défense à 3.
Thomas?
Ouais.
Qu'est-ce que tu voulais rajouter?
Après, moi, sur la complémentarité, moi, j'aime bien avoir deux styles de défenseurs derrière. Je te dirais que Saliba, je pense qu'il a pris plus en confiance et il est plus à l'aise aussi techniquement, notamment avec ses coéquipiers. Je pense qu'Arsenal, ils sont clairement, qu'il rassure plus qu'à Saint-Etienne, ça, c'est sûr. Mais je vois bien Fofana avec un style un peu plus stopper, quelqu'un qui est un peu plus physique et qui voilà va être présent au duel, au corner et qui va d'ailleurs récemment, je crois, il a mis deux buts sur coup de pied arrêté ces dernières semaines. Et un Saliba, tu vois, qui va peut-être plus oser les monter en avant avec une technique comme il fait faire avec Arsenal, là où il fait des super passes à ses coéquipiers. Et ça, moi, je trouve que c'est assez complémentaire. Après, j'oublie pas que j'ai vu la prestation d'Upamecano au PSG. Tu nous comme en défense centrale, pour moi c'est plus que logique.
Et ça compte énormément dans l'esprit de Deschamps, évidemment. Il a des grosses garanties avec Dayo Upamecano. Merci Thomas d'Arfel 32-16.
Merci à vous les gars.
Salut, tu reviens quand tu veux dans Génération After sur RMC. La Ligue des Champions les gars, tiens, commençons par Naples-Francfort, rien tiers ça.
34e minute de jeu, 0-0. Donc pour l'instant Naples virtuellement qualifié pour les quarts de finale. Et tranquille, les Napolitains, ils maîtrisent la partie. Il n'y a pas d'énorme occasion. Il y a Gvichak Varatsrevia, le géorgien magique du Napoli, qui a buté sur Kevin Trapp avec son pied droit. À part ça, c'est compliqué pour les Allemands d'aller se procurer des occasions. Il y a eu quand même une passe en profondeur vers Mario Götze qui aurait pu se présenter tout seul face à Alex Meret, mais j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Il a dû avoir peur de son coéquipier Raphaël Boré. Les deux joueurs allemands ont ralenti, on n'était pas encore sûr qu'il y a hors jeu, et puis bah le gardien italien a tranquillement pris le ballon dans les gants et puis ça s'est arrêté là. Donc 0-0 après 35 minutes de jouer.
Tout à l'heure, Aurélien, Jeannot, Real, Liverpool.
Ouais, 34 minutes de jeu, 0-0, 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. C'est le résultat du match aller pour le Real Madrid. J'ai revu l'action et c'était pas vraiment le poteau, c'était un arrêt de handballeur de la part d'Alisson sur la frappe de Vinicius. Et à l'instant, c'est la grosse occasion, à la 14e minute, l'arrêt d'Alisson. Et à l'instant, la belle frappe de Núñez détournée par Courtois qui fait des merveilles. Vinicius dans la surface de réparation, la frappe enchaînée et l'arrêt impeccable d'Alisson, alors qu'il y a eu un bel appel au deuxième poteau de la part de Karim Benzema. On est à moins de 10 minutes de la fin de la première période et Liverpool n'a pas encore déclenché le moindre but.
Et on parle dans un instant de l'équipe de France, encore la suite de la liste de Deschamps. On va parler des gardiens notamment. Willy, tu veux développer un avis sur un homme que tu apprécies particulièrement, un gardien que tu apprécies particulièrement, c'est Brice Samba. Il n'y aura pas de débat parce que je sais que coach adore Brice Samba également. On va en parler. Quelle hiérarchie pour les gardiens en équipe de France? On peut nous appeler au 32-16 également. C'est Génération After sur RMC. 21h35. À tout de suite.
RMC. 20h-22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Coach Courbis et Walid Acharchour. Hein, soirée spéciale Génération After et Ligue des Champions, bien sûr. Les huitièmes de finale retour. On s'approche de la fin des premières périodes. Real Madrid-Liverpool, Jeannot Rességuier.
38 minutes de jeu. Le match est arrêté. Un tacle un petit peu vilain de la part de Salah sur Nacho. Ça se rapproche pour Liverpool. 32e, Núñez, la frappe est de Courtois qui détourne en corner. 35e, Gakpo, le néerlandais arrivé cet hiver du PSV Eindhoven, futur adversaire de l'équipe de France. Gakpo, eh bien, a failli tromper Courtois qui a encore réalisé l'arrêt qu'il fallait sur le corner qui a suivi. Salah très vicieux au premier poteau, a vu Benzema mettre le ballon en corner. Donc ça se rapproche un petit peu, en tout cas les intentions et les actes maintenant, ou du moins les intentions sont suivies d'actes pour les joueurs de Liverpool.
Naples-Francfort, Aurélien Tiersin.
0-0, avantage toujours au Napoli qui ne se fait pas bouger par Francfort. C'est pas un match qui part dans tous les sens. Un Napoli très solide, et puis pour mettre un petit peu plus la tête dans le guidon, dans l'eau en tout cas des Allemands, il y a des stats qui font très mal. Naples n'a plus perdu en Ligue des Champions à domicile depuis 2017 et les Allemands n'ont plus gagné à l'extérieur depuis le mois de novembre. Donc ça sera vraiment un exploit énormissime qu'on voit les Napolitains se faire sortir par Francfort. 0-0, 40e minute.
Ce serait une première pour l'histoire de Napoli, goûter un quart de finale de Ligue des Champions. Oui. Je ne le savais pas, je l'ai appris il y a un mois. Oui. J'ignorais. Oui. Dans la grande histoire de Napoli, oui, aucun quart de finale.
Deux huitièmes de finale.
C'est dingue.
Contre Chelsea avec la fameuse remontada et contre le Real Madrid en 2017, celui de Zidane.
L'encyclopédie contemporaine du football mondial. Walid Acharchour, coach, t'es pas surpris quand je dis ça, que le Napoli n'a jamais joué un quart de finale de Ligue des Champions?
C'est étonnant. Alors là, sincèrement, tu m'aurais posé la question, j'aurais perdu.
La vraie révolution demain dans la liste de l'équipe de France, c'est bien sûr le poste de gardien. Lloris, Malanda, c'est fini. Maignan sera le numéro 1, il n'y a pas de doute. Areola en sera aussi, parce qu'il rejoue West Ham. Il profite de la blessure du numéro 1 et qu'il est apprécié du groupe. Mais quel sera le numéro 3? Pas forcément dans l'ordre, dans la hiérarchie d'ailleurs. Ça semble se jouer entre Alban Lafont et Brice Samba. Walid, toi, tu veux voir Brice Samba dans la liste de Deschamps demain? Avis, Walid Acharchour.
Mais c'est pas reproduisable. C'est pas reproduisable parce que tu as l'arme Kylian Mbappé dans ton équipe.
Walid, pourquoi tu veux voir absolument le gardien du Racing Club de Lens demain dans la liste de Deschamps?
Parce que pour moi, il mérite totalement, il a totalement les qualités pour remplir ce rôle. Je pense que c'est le bon moment pour envoyer un coup de fraîcheur avec les retraites de Mandanda et de Lloris. Mais aujourd'hui, Brice Samba, on parle d'un gardien qui a 28 ans, c'est-à-dire que c'est pas un jeuneau, c'est un joueur qui a roulé sa bosse à Nottingham, à Nancy, à Caen, avec des échecs, avec des réussites comme l'année dernière avec la montée à Nottingham et cette saison à Lens où aujourd'hui Brice Samba est pour moi le ou l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison. C'est la meilleure défense de Ligue 1. Il a un charisme, il a une personnalité et je pense que Brice Samba doit être appelé. Quand on en parlait un peu en amont, Nico, et vu certaines tendances dans certains médias, je pensais moi que Brice Samba allait être dans les trois. Jeannot nous a un petit peu refroidi tout à l'heure, donc on va attendre, on va voir, mais je trouverais ça quand même surprenant que Brice Samba, par rapport à tout ce que je viens de dire et par rapport à tout ce qu'il réalise depuis le début de saison, surtout que je pense que Brice Samba ne s'attendait pas sur les dernières années à être en équipe de France, donc je suis pas sûr. Alors je connais pas le dossier parfaitement.
Tu as joué en championship avec Nottingham Forest.
Exactement, ouais. je suis pas le dossier parfaitement, hein, mais j'imagine que quand tu passes de Nancy, Caen, Nottingham Forest et que tu arrives aujourd'hui à Lens et que tu es aux portes de la Ligue des Champions et aux portes de l'équipe de France, tu vas pas avoir d'énormes ambitions dans un premier temps. Donc je pense que troisième ou deuxième derrière Mike Maignan qui lui attend depuis un bon bout de temps
et qui est une grosse garantie.
C'est une grosse garantie avec ce qu'il fait à l'AC Milan et ce qu'il a fait à Lille notamment. Je pense que Brice Samba peut être un très très bon backup et pas le backup qu'on fait plaisir. Exactement, parce que il est sympathique, etc. Non, on a un backup très très solide et très très fiable si Mike Maignan se blesse ou n'est pas là. Donc voilà. Et puis en plus, je trouve que je suis assez fasciné. Je trouve que c'est un exemple et une carrière assez inspirante, celle de Brice Samba, comme quoi voilà, à 28 ans tous les chemins peuvent mener à l'équipe de France et que il faut jamais lâcher. Donc voilà, clairement moi je trouve que ce serait une immense récompense pour Brice Samba.
Il espérait être numéro 1 à Marseille, hein, il y avait Malanda à l'époque effectivement qui ne voulait pas céder sa place évidemment. Coach, et après Jeannot nous dira pourquoi Brice Samba n'est pas la tendance.
Mais si tu veux, il y a aussi quand même une évolution dans le poste de gardien, c'est le jeu au pied. Et quand tu vois le jeu au pied de Brice Samba, beaucoup de joueurs de champ n'ont pas sa qualité technique de relance. Ensuite, j'ai eu le plaisir de le voir pendant 5 mois quand j'ai donné un coup de main à Caen. Ben, j'ai rarement vu un gardien aussi bon et aussi difficile à battre. On va pas rentrer techniquement dans les moindres détails. Et pourtant, des bons gardiens, j'en ai eu, que ce soit Olmeta, Huard, Antoine Bell, tout ça. Donc, si tu veux, je ne vais pas tous les citer. Mais ce gardien-là m'avait tout simplement impressionné. Donc, c'est pour ça que je serais vraiment étonné de ne pas le voir dans les trois gardiens. Et pour moi, je suis même plus optimiste. C'est-à-dire, il y a Maignan, il y a lui. Et après, ça se jouera la troisième place avec Lafont, Areola, celui de Lille que je trouve très bon,
Chevalier.
Aussi Chevalier.
Il y a Ilan Meslier aussi
qui va rester avec des espoirs, comme Meslier, mais ça c'est important pour ses
derniers. Qui va rester avec des espoirs, mais pour moi, je parle même pas des trois meilleurs gardiens. Les deux meilleurs gardiens français en ce moment, c'est Maignan, Samba. Point final.
Exactement. Ah, pour moi, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, Brice Samba, cette saison.
Bon, Jeannot est avec nous, hein. Il suit également Real Madrid, Liverpool. Nos infos, c'est plus une tendance à Alban Lafont que Brice Samba, hein, mon cher Jeannot.
Alors, nos infos, c'est qu'il y a une réflexion et qu'elle existe et qu'il y en a un plus que l'autre qui est prêt à accepter une hiérarchie inférieure. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire aussi que pour Samba, il intéresse le staff, il a intéressé Franck Rabiot, il intéresse Didier Deschamps. Mais après, c'est de savoir quand la hiérarchie sera mise en place, si bien il n'y a pas de soucis avec Brice Samba plus qu'avec Lafont ou avec Areola. C'est juste à ce niveau-là qu'il y a une réflexion. J'ai pas dit qu'il ne serait pas retenu.
Bien sûr.
J'ai dit simplement qu'il y a une vraie réflexion et que sous-entendu, peut-être qu'un Lafont acceptera plus d'être numéro 3 qu'un Brice Samba du haut de ses 28 ans et de l'expérience qu'il a par rapport à ce que vient de résumer Walid Acherchour. Après, juste pour une parenthèse des espoirs, ne perdez pas de vue que, un, il y a l'Euro et deux, il y a les jeux.
Oui,
Meslier, c'est un 2000. Donc Meslier, c'est le numéro 1, c'est le capitaine, c'est celui qui va garder les buts pour le championnat d'Europe. Chevalier, c'est un 2001. Donc ça veut dire qu'il va prendre la suite pour notamment les Jeux Olympiques de 2024, ou en tout cas postuler en tant que numéro 1. Donc ce qui veut dire que dans cette hiérarchie-là, il y a peut-être un coup à jouer pour Samba, effectivement, même si Lafond a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui.
Non, mais juste, Jeannot, j'ai une question. C'est pas.
Mais Lafond, pour moi, il va se battre pour la troisième place.
Oui, non, madame, c'est pas contre toi, c'est contre le fameux raisonnement du gardien qui doit accepter, entre guillemets, son sort.
Moi, j'ai déjà un cas de figure en équipe de France.
C'est important, le management.
Bien évidemment. Il y a un cas de figure en équipe de France qui a été compliqué à gérer, c'est Ruffier. Ruffier, à un moment donné, il a dit non, mais attendez, moi je ne viens pas pour être numéro 3, je ne viens pas pour être numéro 2, je viens pour être numéro 1. Ruffier, merci, au revoir.
Tiens, rapidement, un but du Napoli, Aurélien Tiercin.
Ah, et la tête de Victor Osimhen, il enlève son masque. Il est monté très très haut, des abdos en béton là, avec ses cheveux peroxydés sur le dessus. Victor Osimhen qui reprend un centre de Matteo Politano. Il avait bien combiné avec son capitaine Di Lorenzo sur le côté droit. C'est mérité pour le Napoli qui met donc 1-0. On est à la toute fin du temps additionnel de la première période. Victor Osimhen qui marque son 24e but de la saison en tout et pour tout.
Jeannot, juste pour finir, t'as Walid.
Non, juste pour terminer, bien évidemment que on sait très très bien que c'est important l'équilibre, notamment pour les trois gardiens, l'ambiance. Il y a aucun souci là-dessus. Mais je serais très étonné que Brice Samba, par rapport à tout ce qu'on expliquait, par rapport à sa trajectoire, arrive en rassemblement, en bombant le torse, en disant, les gars, moi, écoutez-moi bien, c'est Mike Maignan le numéro un, mais moi, dans un an, dans deux ans, je veux lui piquer sa place. Sincèrement. Et puis, surtout, il faut pas non plus enlever le facteur compétitif que peut avoir un joueur de haut niveau. Le joueur qui vient et qui s'assoit et qui dit, bon, moi, je vais faire 10 ans en équipe de France à la deuxième place, moi, j'aime pas ce style de joueur.
Non, mais Walid, j'entends ce que tu dis, et moi, je suis pas d'idée d'échange.
Je te dis simplement les informations c'était une question.
Et il y a un cas de figure en équipe de France et qui à un moment donné a fait des ordres, c'est Stéphane Ruffier. Quand il est arrivé, il a dit moi je veux pas être 3, je veux pas être 2,
mais encore le 3ème, je peux le comprendre,
merci et au revoir. Non, mais il y en a un à un moment donné qui a été champion du monde, même s'il était numéro 3, c'est Areola. Il joue pas en première ligue, okay, mais il est titulaire avec West Ham en Coupe d'Europe et dans les coupes nationales, et il a été numéro 2, souvenez-vous, il a même joué au mois de juin dernier par rapport à la Ligue des Nations.
Donc, ce qui veut dire que s'il est blessé, le numéro 1 c'est Areola,
c'est le remplaçant de West Ham.
C'est la question qui est en train de se poser le staff de l'équipe de France. Ils ont peut-être trouvé la réponse, moi je ne l'ai pas, mais en tout cas ils se posent la question de savoir si 1, Maignan c'est faisable, 2, Samba et 3, Areola c'est faisable, ou 2, Areola et 3, Lafond. Voilà les questions que se pose le staff de l'équipe de France.
Bon, on va prolonger là-dessus également.
C'est la mi-temps.
C'est la mi-temps, Jeannot.
Et c'est de plus en plus compliqué pour Liverpool.
Ouais, c'est compliqué.
Le Real, but au moins
3 fois, ça s'en a encaissé pour espérer.
Le Real, ils ont vraiment la recette pour anesthésier les matchs quand même.
Pour l'instant, ils le font très bien. On sait-on jamais, ça peut s'emballer en deuxième période. Allez, reste avec nous pour nous appeler au 32-16 pour participer au débat sur
l'hiérarchie
des gardiens. Ce serait bien, et même pas raison.
Je reste avec nous. On voit beaucoup et c'est 0-0.
Génération After avec Coach Courbis et Walid Acharchou. On revient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas avec Coach Courbis et Walid Acharchou, merci d'être avec nous sur RMC. Il est 21h52. C'est la mi-temps donc sur les deux pelouses. Pour l'instant, le Real retient tranquille sa qualification pour les quarts de finale. 0-0 face à Liverpool. 1-0 pour le Napoli qui est en train de sceller sa qualification pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Olivier Giroud devrait en être, messieurs. Voilà. Immortel, c'est Highlander, Olivier Giroud. Chaque fois, on pense que c'est terminé. Il devrait être dans ce groupe-là pour les matchs éliminatoires pour l'Euro 2024, bien sûr.
Et quel âge il a ?
36 ans, Olivier Giroud.
35 ou 36.
Et mon Savanier, il est vieux, alors.
Mais là,
non, mais c'est incomparable.
Deschamps ne veut pas lancer un gars de 32 ans bientôt. D'accord. Voilà, peut-être c'est ça. Coach, tu en penses quoi, toi, Giroud, éternel en équipe de France ? 36 ans.
Il a eu 36 ans le 30 septembre.
C'est-à-dire que son profil est difficile à trouver dans un rôle de pivot costaud, bon de la tête, avec une équipe qui fait des centres, puisque bon, si nous jouons avec quatre défenseurs, c'est une chose, et encore que c'est pas interdit de monter pour les latéraux, mais cette présence devant le but, ce point de fixation, ce qui est important aussi pour la bonne zone pour Mbappé, qui est surtout pas la zone d'un numéro 9, mais de quelqu'un qui prend un petit peu d'élan pour après accélérer et être vraiment irrésistible. Donc ça fait la complémentarité, parce que si on cherche
le profil Giroud, à part Giroud, qui on va trouver Thuram un petit peu dans le profil de numéro 9.
Ouais, et encore, il aime bien sur un côté Marc Thuram.
Ouais, bon, il est assez polyvalent, tu vois. C'est vrai qu'on a c'est un profil de joueur qu'on a pas. Mais moi je suis
on aurait pu l'avoir avec Sébastien Haller hein,
qui a choisi la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire finalement.
Mais ou même Moussa Dembélé qui s'est un peu enterré.
Oui. Il est critiqué.
Ouais, bon, attends, il est critiqué. Mais moi je suis plus surpris du choix de Giroud de continuer que de
ouais.
Parce que je pensais
magnifique, il kiffe être en équipe de France.
Bah oui, il kiffe, c'est très bien.
Ouais, mais il veut dire Walid, quand il voit Varane qui a 29 ans et demi, qui arrête.
Lloris qui arrête, voilà. Je me suis dit peut-être qu'il va finale de Coupe du Monde, 36 ans, il a battu le record de Thierry Henry. Je pensais que à 36 ans,
champion du monde aussi d'ailleurs.
Je l'imagine pas aller jusqu'en. Vous pensez qu'il va jouer jusqu'en 2024, Giroud?
Il se pose une question. Je pense que tant qu'il est en forme, et il l'est avec le Milan. Il continue le garçon.
37 ans et demi.
Pourquoi pas?
D'accord, ok.
Mais Ibra à 41 ans, il retrouve la sélection suédoise.
Non, mais j'ai du mal à imaginer. Ouais. Et si.
Non, c'est plus surprenant, c'est que Deschamps continue avec lui,
c'est
justement.
C'est pas pour faire injure à Giroud, bien évidemment, qui est une légende.
Que Deschamps ne voulait plus vraiment, quand il avait rappelé Benzema.
De cette équipe de France. Mais si on continue à sélectionner Olivier Giroud à 37 ans et demi à l'Euro 2024, c'est quand même qu'on a un manque de renouvellement de génération à ce poste-là qui sera pris en.
Pas ce poste, de ce profil.
Mais même au-delà de ce profil, c'est que déjà d'une, ça voudrait dire que Deschamps ne sait pas jouer autrement, parce que il y a d'autres joueurs, par exemple un Kolo Muani qui s'est un peu affirmé et qui va continuer à s'affirmer. J'imagine qu'il va quand même prendre cette place de numéro 9.
Voilà, celui-là, s'il continue à progresser.
Plein de peps, plein d'énergie, etc. On ne sait pas où est-ce qu'il va aller l'année prochaine, mais on parle des plus grands clubs, on parle du PSG, de Manchester United. Donc normalement la dimension il va la prendre peut-être dans un rôle de grand frère en remplaçant.
Il y a déjà un grand frère hein, t'as vu.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais et avec un témoignage très poignant sur Téléfoot notamment. Mais voilà, je pensais moi que Olivier Giroud allait arrêter. Maintenant, il va continuer à rendre service à cette équipe de France jusqu'à quand, je sais pas.
Bon, on verra. Olivier Giroud, ça fait réagir. Hein, on le dit sur Direct Studio. Giroud est performant. Pourquoi le Milanais n'y serait pas effectivement?
Bien évidemment, oui. Non, mais je parle plus de son choix à lui. Choisir sa fin.
Ouais, il est sérieux. Il prend pas un gramme.
Ouais,
donc,
aussi, peut-être. Ça se comprend.
Donc je pense que c'est même un petit peu un exemple comme.
Mais c'est vrai que les numéros sérieux. 9 qui poussent derrière. Pour moi, Thuram, c'est pas un vrai numéro 9. Bon, il est
rentré. Ça manque d'alternatives.
Il y a ce Kolo Muani qui est intéressant.
Mais sinon, il y a pas grand chose. Hein. Avant, à l'époque, Wissam Ben Yedder qu'on peut rappeler, mais qui avec l'équipe de France n'a jamais.
Non, mais effectivement, l'alternative Kolo Muani, elle est très pertinente. Hein. Oui. Il peut jouer neuf, c'est un vrai neuf. Il peut jouer sur un côté aussi.
Oui.
Il peut jouer pivot également,
oui.
Avec un Mbappé qui tourne autour.
Oui. Il peut jouer en profondeur. C'est un joueur qui fait jouer les autres aussi, parce que je crois qu'il a 9 ou 10 passes décisives en Bundesliga. En tout cas, il a totalement pas le profil de Giroud, mais le profil pour être le numéro 9 de l'équipe de France.
C'est quand même une trouvaille de Didier Deschamps, parce que moi je le voyais bon celui-là, mais pas aussi bon que ce que j'ai
après,
pu le voir.
Quand il le prend, il est déjà très très fort à Francfort.
Meilleur passeur de Bundesliga.
Ouais, et l'année dernière, faut pas oublier qu'il gagne la Coupe de France avec Nantes, où sur tous les gros matchs, Kolo Muani semait la zizanie dans toutes les défenses françaises. Ouais.
Bon, alors évidemment, ça réagit beaucoup sur le débat des gardiens sur Direct Studio. Que fait encore Alphonse Areola en équipe de France? Bon, voilà.
C'est la logique des champs.
On vous l'expliquer, hein. Logique des champs, logiciel des champs. Un homme, comment dire, fiable selon lui dans la vie d'un
mais groupe. Mais moi,
sur la durée.
Moi, déjà, ce raisonnement-là me dérange. Mais il me dérange encore plus s'il est numéro 2, en fait. À la limite, s'il est numéro 3, pas de souci. Allez. Aujourd'hui, tous les sélectionneurs marchent comme ça. Moi, je vais l'entendre. Mais qu'il soit numéro 2 derrière Mike Maignan, alors que il est remplaçant à West Ham en temps normal. Je trouve ça quand même problématique.
Les gars, voilà pour Génération After. Je vous rappelle les scores à la mi-temps des deux huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. 0-0 entre le Real et Liverpool. Pour l'instant, le Real est qualifié. Tiens, on nous dit sur Direct Studio, donc on a 45 minutes de la retraite de Fred Armel qui avait annoncé un avant-match. Ça fait 0-0. Je pars à la retraite.
Ah oui, c'est pas faux.
On va le retenir, ce truc-là.
C'est pas faux.
On va voir si c'est un homme d'engagement,
ouais,
Fred Armel.
Exactement.
Hein,
il faudra le glisser.
Est-ce qu'on n'a pas presque envie que ça fasse 0-0? Non, je plaisante.
Salut Daniel.
À la fin. Et donc 1-0 pour le Napoli.
Il faudra que tu le dises à Gilbert, ça.
Face à l'Eintracht Francfort, hein, le Napoli, puisque jamais qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Merci Walid. Merci coach.
Merci à toi,
salut,
Nico.
Salut. Tu peux rester là, coach. Tu vas regarder la fin des matchs avec Gilbert, Daniel. Et Lionel, hein. Je sais que t'es très intéressé par les matchs ce soir, évidemment. Dans un instant, l'after, Gilbert arrive, Daniel Riolo, Lionel Charbonnier, jusqu'à minuit, évidemment. Bonne soirée à tous sur RMC.